Édition de décembre des Voix de l'Alma. Cette émission des libraires montalbanais va vous être présentée aujourd'hui par Jacques Griffaud du Scribe. Bonjour Jacques.
Bonjour.
Et Philippe Bernadou de la librairie de Loche. Bonjour.
Bonjour.
L'auteur du mois, c'est Umberto Saba et c'est vous qui nous le présentez, Philippe Bernadou.
Umberto Saba, qui est un poète et écrivain italien, parler de lui, c'est l'occasion d'évoquer un lieu et un temps exceptionnel. C'est Trieste, au début du siècle dernier. Trieste, je vous le rappelle, c'est en Italie actuellement, à la frontière de la Slovénie et de la Croatie. Mais la ville a longtemps été austro-hongroise, elle a été un peu tout d'ailleurs, très disputée. L'architecture un tantinet massive se ressent de l'époque austro-hongroise, mais elle est restée toujours majoritairement italophone. Et ce qui se passe en 1904, c'est que débarque à Trieste un écrivain irlandais, encore inconnu, qui s'appelle James Joyce, et il donne des cours d'anglais dans le cadre des écoles Berlitz à un écrivain italien, encore inconnu, qui s'appelait Italo Svevo, et ces deux-là vont être à la base d'une effervescence littéraire qui dure jusqu'à nos jours dans les cafés autour de la Piazza dell'Unità. Umberto Saba est une de ces figures de Trieste, et de plus, ce qui participe à le rendre cher à nos yeux, il a fondé une librairie de livres anciens qui existe toujours et porte toujours son nom. Il a beaucoup voyagé en Italie et en France aussi, pas toujours de son plein gré, il était demi-juif par sa mère et les années fascistes sous Mussolini l'ont contraint à une semi-clandestinité vagabonde à Paris, à Rome et à Florence surtout. Il est né en 1883, il meurt en 1957 après avoir atteint une grande notoriété. On dit que c'est un des trois poètes majeurs italiens du XXe siècle. Il a été couronné de tous les lauriers, de tous les prix qu'il a voulu. Le seul reproche qu'on ait pu faire à sa poésie étant sa simplicité et son refus de l'obscurité, ce qui nous le rend encore plus cher. On en parle aujourd'hui parce que les éditions du Seuil publient Ernesto, qui est un roman autobiographique posthume, inachevé, où il décrit sa façon lumineuse dans un émerveillement au-delà de la morale, dans l'émerveillement de l'enfance, son éveil à la sexualité grâce successivement à un jeune homme, une jeune femme et un second jeune homme. C'est un sujet encore assez sulfureux pour que sa fille ait dû attendre 20 ans après sa mort pour faire apparaître ce livre. Il y a trois statues à Trieste qui sont de plein pied dans la rue. Il y a Joyce sur le pont du Grand Canal. Il y a Italo Svevo qui est devant la bibliothèque municipale, comme s'il allait y entrer. Et dans une rue marchande, il y a la statue d'Umberto Saba. Si vous passez par Trieste, saluez-les pour moi. Ernesto de Umberto Saba aux éditions du Seuil.
Merci Philippe Bernadou. Ça c'était donc l'auteur du mois. Le premier coup de cœur de Jacques Griffaud, c'est Vibration, la huitième Vibration.
Oui, la huitième Vibration. Le titre est un peu énigmatique, mais vous le comprendrez à la fin du roman, donc je ne vais pas vous le dévoiler. C'est écrit par un auteur italien, Carlo Lucarelli, qui est très connu comme auteur de polar. Mais est-ce que c'est un polar? Est-ce que c'est un roman d'aventure? Est-ce que c'est un roman de guerre? Est-ce que c'est un roman d'amour? Eh bien, je dirais qu'à chaque fois, la réponse est oui, et oui. Car vraiment, cette huitième Vibration, elle englobe tous les genres. C'est surtout, pour moi, un très très grand roman. On est en janvier 1896, en Érythrée. C'est une colonie italienne. Alors c'est un endroit où il fait très très chaud, c'est un pays qui est brûlé par le soleil infâme. Il dit que l'air est immobile et lourd, chaud comme un four, avec ses bruits et ses odeurs inutiles. Et que l'air dense en souffle et fort en odeur vous pèse comme une couverture. Il y a énormément de personnages. Un des personnages principaux, c'est Victoria Cappa, qui est fonctionnaire du ministère des Affaires étrangères italien, et qui lui fait de la magie, c'est-à-dire que sur ordre de son supérieur direct, il fait disparaître des choses qui avaient été enregistrées. Bref, si vous voulez, ce qu'il fait, c'est que il arrive à gonfler les factures. Quoi. C'est ce qu'il fait. C'est ça la magie. Et ce jour-là, eh bien, lorsque le roman commence, il va arriver en retard pour assister à l'arrivée d'un bâtiment qui vient d'Italie. Il y en a trois ou quatre par semaine qui arrivent, et c'est toujours un grand moment. Et s'il arrive en retard, c'est la faute à Aïcha, la chienne noire, qui est venue l'aguicher en dansant nue sous ses fenêtres. Et du vapeur, là va descendre une jeune femme, qui s'appelle Christina, qui a 22 ans, qui est bien sûr beaucoup trop vêtue pour la chaleur qu'il fait, qui est accueillie par son cousin. Elle vient rejoindre Léo, son mari, qui est un espèce d'idéaliste, qui est beau, riche, et qui est pris par son rêve de transformer en jardin la colonie italienne de l'Érythrée. Et de ce fait, il va délaisser un peu sa femme. Lorsque Victorio, donc celui qui fait de la magie, verra cette Christina, il lui trouvera une sensualité ingénue, instinctive et troublée, très enfantine. À côté d'eux, il y a des tas d'autres personnages. Il y a un lieutenant de cavalerie, qui s'appelle Vincenzo Amara, qui a besoin d'action, lui. L'immobilité le rend fou. Il a accepté d'assurer la liaison avec les Afars. Il est le seul à avoir poussé aussi loin dans le désert de la Dankali. Il y a Saba, qui est une bilaine, au visage rond, qui est très belle. C'est la femme du capitaine Branciamore. Elle ne marche plus pieds nus depuis qu'elle est devenue la madame d'un officier italien. Il y a la colonelle, qui est un crampon incroyable, en plus d'être une commère. Il y a un anarchiste international. Il y a un brigadier qui est là, qui poursuit un assassin d'enfant et qui perdra ses certitudes. L'action, il y en a tout le temps. Il y a en particulier, à la fin du livre, une description d'une très grande défaite, de la défaite d'une armée blanche face à des troupes africaines. C'est la défaite d'Adoua, qui nous vaut vraiment des pages épiques et pathétiques. Sur ces soldats, c'est les Italiens, donc, qui sont partis au casse-pipe sans connaître leurs adversaires, sans les armes, les informations nécessaires. Ils sont privés de bon matériel, trop souvent volés par des fonctionnaires corrompus. C'est, je vous le répète, c'est un roman, une espèce de roman total, c'est un roman d'aventure, d'amour, une fresque historique, une enquête policière. C'est très ambitieux, c'est riche en histoire, il y en a énormément, avec des personnages qui sont embarqués dans un monde très très différent de leur Italie natale. Magnifique. Ça s'appelle « La huitième vibration ».
C'est une sélection de fin d'année pour la Noël que vous nous proposez.
Ben oui, c'est le moment ou jamais de parler des beaux livres, ce que nous faisons rarement. Les beaux livres qui sont dominés cette année par l'exposition Monet au Grand Palais, bien sûr, qui a donné lieu à une foule de livres, dont le catalogue de l'expo de très haute tenue à la Réunion des musées nationaux, 50€, je vous donne les prix au passage, et la grosse monographie chez Citadel à 184€ tout de même. Mais le livre le plus original sur le sujet, sans conteste, Les Nymphées à grandeur nature, chez Azan, qui est un livre qui se déblie à la fois en hauteur et en largeur, pour redonner aux peintures de l'orangerie leur vraie dimension. Il coûte 170€. Si vous n'aimez pas Monet, je vous invite à faire un tour du côté de L'Art du Trompe-l'œil. C'est un livre fascinant chez Citadel, toujours chez Citadel, toujours 184€. Et nous resterons par la suite dans des prix plus abordables. Par exemple, Les Maîtres du Dessin, Place des Victoires, 49,95€. Gros bouquin, 600 pages, reliés, dorés sur tranche, magnifique. Rétrospective des gravures et dessins du 14e au 20e siècle. En photographie, beaucoup de rééditions de classiques. Faydon ressort la collection de Robert Capa en broché, 39,95€. La Martinière consacre une monographie de 365 pages à Édouard Bouba, 45€. Et Azan propose un André Kertész à 49€ et un Cartier-Bresson à 55€. Plus inattendu, Jean-Luc Moulaine consacre à Fénotrigue, petit village du Lot, soi-disant, je ne l'ai pas trouvé sur la carte. Un album de 528 pages. C'est un extrait de 7000 photos qu'il a prises sur place. Il a tout photographié, les ruisseaux, les arbres, les outils, les chevaux, le curé, tout. C'est à la table ronde, à 57€. En cinéma, on frise l'overdose avec 5 livres consacrés à Clint Eastwood, au moins. Mais la création japonaise est aussi à l'honneur. Première monographie consacrée à Hayao Miyazaki parée au mouton électrique, 29€. Un album consacré à Osamu Tezuka, le dieu du manga, le père du manga, mort en 1989 chez Erol à 32€. Et toute l'histoire de l'animation japonaise, du rouleau peint au Pokémon, c'est chez Flammarion à 40€. J'avouerai quant à moi mon indéfectible tendresse pour Marilyn Monroe, dont, sous le titre Fragments, les poèmes écrits intimes et lettres nous dévoilent qu'elle était un être fragile, ce dont on se doutait un peu, et une femme intelligente, ce que sa plastique a eu tendance à nous faire oublier. 2 versions, brochées à 29,80€ et reliées collector à 49€ au seuil.
Merci, vous revenez dans un instant pour d'autres sélections pour cette fin d'année. Sans un adieu, c'est votre second coup de cœur.
Oui, Sans un adieu, c'est un polar de Harlan Coben. Alors Harlan Coben, c'est un auteur de polar qui est connu et apprécié. Il a publié entre autres Ne le dis à personne, Disparu à jamais, Juste un regard, Promets-moi, sans laisser d'adresse. Et voilà que Belfond, son éditeur en France, nous propose le tout premier polar de cet auteur, écrit en 1990. Alors moi, je dois dire que c'est avec une certaine méfiance que j'abordais la lecture de Sans un adieu, parce que je craignais vraiment que l'éditeur profite du succès et de la renommée de l'auteur pour nous sortir, vous savez, un nanar de jeunesse, tout juste bon à intéresser un thésard, ayant décidé d'étudier l'évolution de l'auteur depuis son premier bouquin, quoi, c'est un peu ça. Et bien très vite, je me suis rendu compte qu'il s'agissait d'un premier thriller très très réussi. De quoi s'agit-il ? Laura Ayars, c'est une ancienne top modèle. Elle est très, très prisée. Elle était très prisée comme top modèle. Elle a lancé avec succès une ligne, une marque, Svengali. À 26 ans, elle est à la tête d'un groupe important qui vient de fêter son entrée en bourse. Elle est folle amoureuse d'un certain David Baskin, qui est la superstar de l'équipe de basket des Boston Celtics. Et qui, lui, à son tour, il est très épris d'elle depuis qu'il l'avait vue en couverture de Cosmopolitan. Ils sont jeunes, ils sont beaux, ils sont riches, ils s'aiment passionnément, la vie est belle. Mais bien sûr, ce bonheur parfait ne va pas durer. Et ils sont partis en voyage de noces. Elle interrompt son voyage de noces quelques heures pour un rendez-vous d'affaires. Ils sont en Australie. David en profite pour aller piquer une tête dans l'océan. Il disparaît sans un adieu. Totalement désemparée, Laura va revenir. Elle va téléphoner à Terry Conroy, qui est le meilleur ami de David, le seul en qui il avait confiance. Et tous les deux vont tenter de comprendre ce qui s'est passé. Est-ce que c'est un accident ? Est-ce que c'est un suicide ? Est-ce que c'est un meurtre ? Pour découvrir cela, ils vont devoir fouiller dans le passé des parents de Laura et de David. Et Laura va découvrir que ce passé est chargé, bien sûr, en mensonges, en trahison, en jalousie, en assassinat. Et que le meurtrier qui a frappé dans le passé est prêt à tuer de nouveau pour que la vérité ne soit pas découverte. Chapeau bas pour ce premier polar, vraiment magistralement transformé. De Harlan Coben, et c'est chez Bellefond Noir.
Philippe Bernadou, d'autres sélections pour cette fin d'année?
La suite dans le secteur que nous appelons vie pratique. Deux enfants du département nous ouvrent leur livre de cuisine. Bernard Bach, qui est né à Casaumont-de-Nord et qui est restaurateur au Puy-Saint-Jacques à Pujaudran, publie fort joliment d'ailleurs les rendez-vous gourmands du Gers, 35 euros. Et Pierre Appéret, de Castelsarrasin, on ne le rappelle pas, quant à lui, essaye de nous convaincre que nous sommes tous toqués, c'est le titre de son livre, ou que nous pouvons l'être facilement. Au Cherche-Midi, 25 euros. Un autre enfant du pays, Philippe Delerme, préface le livre de Florent Quellier, Histoire de la gourmandise, chez Armand Collin, 23,80 euros. Et si la gourmandise, qui est, je vous le rappelle, un péché capital, vous conduit en enfer, le même éditeur, Armand Collin, a prévu pour vous consoler un guide du paradis à travers les âges et les religions, 23,50 euros. Le paradis, c'est peut-être aussi une île oubliée. Judith Schlassansky en sélectionne 50 dans son atlas des îles abandonnées, 25 euros chez Artaud. Elle nous en fournit à chaque fois la carte et une description souvent poétique. Les éditions toulousaines Plume de Carotte publient leur herbier annuel, toujours magnifique et passionnant, consacré cette année aux plantes à parfum, présenté chaque fois par un nez de la parfumerie. Ça s'appelle l'herbier parfumé, 35 euros. Et de beaux livres sur notre région. Michel Laure-Blanchet dresse dans Art pariétal, grottes ornées du Quercy, un état des connaissances sur la préhistoire du Lot, au Rouergue, 49 euros. Et le petit frère mal aimé du canal du Midi, le canal latéral à la Garonne, a enfin un livre rien qu'à lui, chez Loubatière, 29 euros, texte de Charles Danet, Jacques Dubourg et Jean-Loup Marfin. Chez Loubatière toujours, un beau livre d'un abord aisé sur Toulouse au Moyen-Âge, 1000 ans d'histoire urbaine, 45 euros.
Merci Philippe Bernadou, vous en gardez sous le coude, hein. On revient après le troisième coup de cœur de Jacques Griffo.
Alors ce sera Purge, un livre de Sophie Oxanem qui est connue, qui a déjà fait un beau parcours en librairie depuis la rentrée au mois de septembre. Elle a obtenu en particulier le prix Femina étranger, la critique a été très très louangeuse, Nancy Houston a qualifié Purge de vrai chef-d'œuvre. C'est un livre assez dur. De quoi s'agit-il? Eh bien ça se passe en Estonie. Et c'est le pays dans lequel donc se passe le roman a connu depuis son indépendance en 1920 l'occupation soviétique, puis l'occupation soviétique c'était en 40-41, puis l'occupation allemande de juillet 41 à 44, suivie de nouveau de l'occupation soviétique de 44 jusqu'en 1991 lorsque l'indépendance de l'Estonie a été reconnue par l'URSS. Donc c'est sur cette toile de fond que va se dérouler de 1936 à 1992 le roman de Sophie Oxanem. Le roman s'ouvre en 1992, lorsque Alide Truu, une femme âgée qui vit seule, terrée dans sa maison, accueille une jeune femme, Zara, qui semble en grande détresse et prétend fuir son mari, Pacha, un russe d'Estonie. Zara a du mal à parler, car au cours de l'année précédente, elle avait oublié tout ce qui ressemblait de près ou de loin à des relations sociales normales. Comment faire connaissance avec les gens? Comment faire la conversation? Donc, que lui est-il arrivé pendant l'année précédente? Je ne vous le dirai pas. Et pourtant, elle aimerait savoir ce que signifient les pluies de cailloux qui crépitent sur les fenêtres, qui ne semblaient pas affecter la sérénité d'Alaïde. Alaïde, elle, va repenser à la voix de Hans, son beau-frère, au corps fringant qu'elle a tant aimé, en secret. Zara, donc la jeune fille qui est là, qui a désemparée, est venue avec une photo que lui a remise sa grand-mère, avant qu'elle parte en Allemagne l'année précédente. En plus de cette photo, la grand-mère lui avait donné l'adresse de la maison natale en Estonie, de sa maison natale en Estonie, c'est celle où se trouve Aliïde. Aliïde, elle, ne peut pas oublier ce qu'elle a enduré dans la cave de la mairie, une scène d'une rare violence, décrite d'une manière époustouflante, avant d'épouser, sans amour, mais pour être protégée, pour enfin ne plus avoir peur, Martin, un membre du parti, un homme de constitution robuste, qui avait toujours, je cite, « des restes d'oignons entre les dents, des pores pleines de graisse dont l'odeur variait selon ce qu'il avait mangé. » Hein, c'est pas très excitant. Ils eurent une fille, Talvi, qui encore gamine, clamait qu'elle voulait être l'enfant du grand Lénine, au grand bonheur de son père et à la consternation silencieuse de sa mère. Peu à peu, on va découvrir les grands événements des vies passées de Zara et d'Aliïde et ce qui les lie. C'est un grand roman qui est âpre, intense, qui traite de la peur, bien sûr, mais de la soumission aussi, de la délation, de la honte, des humiliations faites aux femmes, du basculement vers la terreur. L'histoire d'une passion aussi est celle de deux destins bousculés et tabassés par l'histoire. Ça s'appelle Purge et c'est de Sophie Oxanem. C'est publié dans la très belle collection La Cosmopolite de Stock.
Merci Jacques Griffaut. Encore quelques sélections de Philippe Bernadou.
Oui, nous continuons après le féminin étranger avec les prix littéraires, puisque cette année est particulièrement riche. Alors pourquoi ne pas offrir un prix quand ils sont bons? La carte et le territoire de Houellebecq, le prix Goncourt, je vous en ai déjà parlé à l'antenne, et je redis que c'est un livre qui m'a amusé et qui m'a aussi fait réfléchir, car il y a le portrait de ce qu'est, d'où peut mener la création, et du resserrement ou du dessèchement qui est le lot de quelques créateurs chez Flammarion. Le prix Médicis, Daniel, là je me fais son porte-voix, de Daniel Deloche, a adoré ce livre-là, c'est Naissance d'un pont, de Maïlys de Kerangal, un livre à l'écriture serrée, difficile, mais très riche. Et personnellement, moi, c'est Nagasaki de Eric Faye, le prix du roman de l'Académie française, un petit roman qui se passe au Japon à l'heure actuelle et qui est, l'histoire d'un homme qui s'aperçoit qu'il y a quelqu'un qui squatte chez lui pendant qu'il n'est pas là, et on apprend que c'est aussi pendant qu'il est là. C'est fait avec beaucoup de finesse. Et pour finir l'année en gaieté, trois livres d'humour. Auguste Derrière, récidive, avec un livre qui s'appelle « Les moustiques n'aiment pas les applaudissements », c'est au Castor Astral, 14,90€. C'est des à peu près des coq à l'âne, des calembours. Par exemple, « Nul n'est prophète à Pompéi ». J'aime beaucoup celui-là. Alain Créange vous propose « Le pornithorynque est-il lustré ?» Le titre est tout un programme. C'est chez Fage, 24€, un livre de mots-valises. On apprend par exemple que « palpoter » veut dire « engager la conversation en joignant le geste à la parole ». On palpote. Et pour finir, si vous avez un vieil oncle qui a fait ses humanités, latiniste, je vous conseille le dictionnaire des sentences latines et grecques de Renzo Tozzi, qui est une œuvre complètement folle, car la traductrice était déjà un livre important. La traductrice a rajouté des citations, a rajouté des explications surtout. On a ce qu'on trouve dans les pages roses, des choses dont on a moins l'habitude. Et surtout, pour chaque citation, elle retrace sa carrière littéraire à l'intérieur des textes classiques, mais aussi dans les littératures allemandes, espagnoles, italiennes et françaises. C'est un travail complètement fou. Je ne vous le dis pas en latin, mais sachez que la curie romaine ne s'occupe pas des brebis sans laine. Elle écoute ceux qui ont les mains pleines et ferme la porte à ceux qui ont les mains vides. Vous voyez, ça n'a jamais changé. Ça s'appelle « Le dictionnaire des sentences latines et grecques ». C'est publié chez Jérôme Millon, 29€.
Voilà, beaucoup d'idées cadeaux dans cette émission par Philippe Bernadou et un livre qui s'appelle « Je ne suis pas un cadeau » pour la lecture de Jacques Griffaut.
Oui, alors « Je ne suis pas un cadeau », c'est un livre d'Alain Bertrand qui est publié chez Finitude, une petite maison fort courageuse et talentueuse d'édition de Bordeaux. Alain Bertrand, c'est un Belge, il est amoureux de Vialat, il trouve dans la chronique, c'est dans la chronique qu'il va trouver son genre de prédilection. Les premières phrases de son livre, la première phrase de son livre est la suivante. Le livre dont je vous rappelle « Je ne suis pas un cadeau », c'est cela. La vie ne fait pas de cadeaux. En revanche, l'homme peut en faire. C'est sa suprématie sur les choses, avec l'ivrognerie, le sourire en coin et la position du missionnaire. Bon. Alors il va dire qu'il y a trois sortes de cadeaux. Il y a les premiers vont à ceux qu'on aime, comme on devrait aimer un ami, une maman, une autre femme. Ensuite, il y a le cadeau que l'on fait à ceux qui ne nous sont rien, mais que la comédie de vivre en société oblige d'honorer. Et puis enfin, il dit qu'il se trouve une délectation piquante à faire un présent à son ennemi. Voilà. Alors, donc, il y a ces cadeaux qui sont là. Il dit à chaque fois pour qui c'est. Vous avez des cadeaux convenus, des fleurs pour sa femme, une boîte de chocolat pour sa maîtresse, une boîte de pinceaux pour son petit garçon. Alors, il y a des cadeaux plus originaux. Par exemple, le jean de Jane Birkin pour le grand-père, un pèse-personne pour son psy, un ravier d'olive pour un homme de science ou encore une grue pour son banquier. Alors, c'est des textes courts. Quel cadeau offrir? Eh bien, à qui? Et l'humour est souvent décapant. Alors, j'ai choisi un texte pas très long, dont je vais vous lire le début, qui s'appelle « Un crayon rouge », et c'est à offrir, il suggère, de l'offrir à un adolescent. Le crayon rapetisse au fur et à mesure que l'enfant grandit. Il peut se cacher dans un tiroir ou disparaître au fond d'une poche. Le plus souvent, on le retrouve dans le tambour de la machine à laver en compagnie d'un bouton de culotte. On aurait tort de croire que le crayon sert à écrire. Il s'utilise aussi pour se gratter l'oreille ou piquer les fesses des filles. Le crayon est un arbre sans feuilles ni racines et qui donne tout pourvu qu'on le serre entre ses petits doigts. C'est avec le ver solitaire l'ami le plus fidèle de l'homme. Il se tient incliné mais se couche au-dessus ou se penche au-dessus d'une épaule. Il invente des flots de voyelles et des rafales de points de suspension. Il crée des univers où la tête est en bas, les étoiles au plafond, le soleil dans le coin gauche, entre un cœur tendu de rose et un nuage percé d'une flèche d'argent. Le crayon conduit la main comme le chien conduit son maître. Le crayon était long. Le voici comme un nain qui raconte des histoires à l'ombre des sorcières. Celle du boucher sanglant qui se coinçait derrière l'oreille un crayon à deux pointes, bleu et rouge. Une seconde où une fille chétive fait de son crayon le tuteur d'un plan de basilic. Une troisième, celle du petit garçon qui fait des trous de confessionnal dans une feuille parce qu'il veut connaître tous les péchés de ses copines. Voilà. Voyez un tout petit peu l'ambiance. C'est assez caustique, c'est assez drôle. C'est un livre qui vaut 14 euros et je crois que c'est un clin d'œil sympathique à faire.
Je ne suis pas un cadeau. Voilà, pour essayer d'avoir des idées de cadeaux,
voilà,
justement.
Exactement.
À l'approche de Noël. Eh bien, on arrive maintenant aux actualités. Vous avez des rencontres, des expos, des signatures dans vos librairies, messieurs. Qui c'est qui commence?
Oui, alors, dans le cadre des Lettres d'automne, on a une exposition au premier étage, donc de la librairie, qui reprend de l'artisanat mexicain, donc avec la collection de Artes de Mexico. C'est une exposition qui va durer jusqu'au 31 décembre. Les objets sont à vendre, qui sont là.
Nous exposons jusqu'à la même date le 1001 aventures de la lecture. Aventuras de la lecture, si. La Cavalière de la librairie de Loche.
Nous aurons le 15 décembre, dans le cadre des lectures de la Compagnie des écrivains du Tarn-et-Garonne, monsieur Olivier de Mazet viendra fêter les 20 ans de Montreuil Poésie.
Et le vendredi 17, le surlendemain, Robert Picot sera le fil rouge de l'après-midi. Il présentera son roman « Pété de thunes » qui est en fait ses souvenirs de son excursion dans le monde du showbiz à Paris dans les années 60. Et il est aussi le rédacteur, l'auteur du texte de l'album Montauban dévoilé. On a déjà fait une rencontre, on fait une seconde rencontre à l'approche des fêtes en compagnie de Philippe Ploquin, donc le photographe, aux éditions CED de Saint-Étienne-de-Tulmont.
Eh ben voilà, on arrive au terme de cette édition des Voix de l'Alma. Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année.
Bonne fête à tout le monde.
Bonne fête, belle fin d'année, mais fin, F-A-I-M. Oui.
Et à l'année prochaine.